Yann. Yann est assis sur le lit, bras levés, fusil braqué sur lui. Clémence entre lentement dans le bungalow à tout tas, sans varier d'un centimètre la direction de son canon. Une longueur d'avance, répète-t-elle. Oh non, Yann. Oh non. J'ai subi. J'ai improvisé. En permanence. Yann se recule. Pose doucement ses deux mains, bien à plat. La droite sur les draps et la gauche sur le manuscrit. Il défie Clémence du regard.
Je t'ai toujours soupçonné.
Dès le début. J'ai toujours su que c'était toi. Les yeux de Clémence lui répondent avec une absence totale de colère. Ils paraissent emplis d'une infinie mélancolie.
Alors tu l'as su avant moi. Je ne suis pas venu pour ça, Yann. Pas pour vivre un cauchemar. Je suis venu ici pour poursuivre un rêve. Relis mon journal depuis le début. J'étais une lectrice comme les autres avant que Pierre-Yves disparaisse. Sincère, sans aucun crime à avouer ni aucune intention de tuer. Juste une apprentie écrivaine pas plus ambitieuse qu'une autre. Est-ce ma faute si une voix me hante, me souffle depuis que je suis né que mon existence n'aura de sens que si je suis capable d'en faire un roman? Que seuls les mots sont éternels. Est-ce moi qui ai déterminé si j'avais ou non du talent? Je n'ai rien décidé de tout ça. Tout s'est enchaîné. Tout ce que j'ai fait, j'y ai été obligé.
Yann continue de la défier du regard, la main toujours à plat sur la pile de feuilles annotées par PYF.
Obligé? Provoque-t-il de la voix la plus assurée possible. De les tuer? Toutes?
Sa voix hésite un peu cette fois.
Même Héloïse?
Clémence garde son fusil braqué, mais baisse un instant les yeux vers le manuscrit. Sa voix s'acidifie d'une pointe d'ironie.
Ta petite chérie est peut-être la seule pour qui je pourrais admettre un soupçon de préméditation. Sinon, pourquoi aurais-je ramassé ce poison? Les noix d'Otou dont m'a parlé Pito il y a 3 jours. D'après le manuel de la flore marquisienne qu'on trouve dans la salle Maeva, l'otou agit en 1 heure maximum. Paralysie cardiaque totale. Même si les policiers de la BRJ de Tahiti ont la bonne idée d'emmener un médecin légiste avec eux, le cœur de la belle Héloïse se sera arrêté depuis plus de 2 heures.
Une boule acide bloque la gorge de Yann. Son cœur lui aussi s'est arrêté. Mais à la différence de celui d'Héloïse, il se remet à battre aussitôt à toute vitesse. Le capitaine s'efforce de le calmer sans rien montrer de sa panique.
Et ensuite, enchaîne Yann, maintenant que tu as éliminé tes 4 rivales, après m'avoir fait taire moi aussi, tu vas t'occuper de tous les autres témoins? Tanae, Pito, et les filles aussi? Maïma, Moana, Poé?
Ne t'en fais pas, j'ai un plan. Plusieurs même.
Je suppose que je n'en fais pas partie.
Clémence semble sincèrement désolée.
Tu le sais bien. Tu n'es pas idiot. Je n'ai rien contre toi, crois-moi. Mais je ne peux pas te laisser derrière moi.
Yann sait qu'il joue gros. Il se retient de regarder sa montre, de crisper sa main sur le manuscrit, de se précipiter pour arracher ce canon de métal pointé sur lui, de sprinter pour porter secours à Héloïse, de sortir juste en criant « Sauve-toi, Maïma, sauve-toi !» quitte à se prendre une balle dans le dos. Attendre. Gagner du temps.
J'ai au moins le droit de savoir.
Savoir quoi?
De comprendre, plutôt. De comprendre pourquoi.
Clémence regarde ostensiblement les fleurs d'hibiscus mauve qui décorent les draps du lit. Soupire. Mais répond pourtant.
Il n'y a rien à comprendre. C'est juste un accident. Je me suis contenté le premier jour de remettre mes scénarios à Pierre-Yves, mes pitchs, mes synopsis, quelques nouvelles, quelques ébauches de romans. Rien que quelques bouts de papier cornés, froissés, raturés. Des brouillons. Le brouillon de ma vie. Sans brouillon, hein? Comment espérer qu'elle devienne parfaite?
Yann n'ajoute rien. Se contente de quémander la suite, hochant la tête comme un petit garçon qui écoute avec passion.
Tout allait bien alors. Je crois même que je n'avais jamais vécu une telle harmonie. J'étais au paradis. Je passais mes journées à écrire et nager avec Maïma. J'ai entendu Pierre-Yves parler à Servanastine au téléphone le lendemain matin. Il évoquait un manuscrit formidable, original, rare. Je n'arrivais pas à croire qu'il puisse parler ainsi d'un de mes textes. C'était comme une fenêtre qui s'ouvrait sur une autre vie. Comme si, au fond, j'avais toujours su que ce moment viendrait, qu'on reconnaîtrait mon génie. J'ai vraiment commencé à y croire quand il m'a donné rendez-vous, un simple message dans mon bungalow quelques heures après qu'il a disparu. Il m'invitait au milieu de la nuit, quand tout le monde serait endormi, dans la cabane du maire au-dessus du port. Ça ne m'a pas étonné plus que ça. Ça correspondait à sa mise en scène. Moi, comme les autres, j'échafaudais mes hypothèses. La première chose que j'ai sentie en entrant dans la cabane du maire a été le parfum Hermès de Marie-Ambre. Sa maîtresse. Il avait dû l'inviter les jours précédents dans sa garçonnière. Je m'en foutais. Au moins, PYF ne couchait pas avec elle pour son talent, et elle ne couchait pas avec lui pour son argent. Du moins, c'est ce que je croyais. Puis, tout a basculé. Le manuscrit exceptionnel dont il parlait à son éditrice n'était pas le mien, mais celui de cette Héloïse Longo. Pierre-Yves m'a rendu mes bouts de papier, à peine lus, seulement un peu plus froissés, tout juste s'il n'en a pas fait des boulettes. C'est ma vie qu'il jetait, avec violence, pour ne me laisser aucune chance. « Ne te fais aucune illusion, Clem, » assénait-il. « Ne perds pas ton temps. Lis, lis, lis autant que tu voudras, mais écrire, ce n'est pas pour toi. Personne ne te publiera jamais. Personne. Tu n'as aucun talent, aucune personnalité, aucun univers. » Il l'a fait comme un prof sévère, sans aucune humanité. Puis enfin, il a eu la délicatesse de s'excuser, de dire qu'il était désolé, mais qu'il se devait de me dire la vérité, toute la vérité, qu'il n'y était pour rien, que ce n'était pas sa faute. J'ai pleuré. Je l'ai ému, je crois. Ou alors, tout était prémédité. Pierre-Yves avait tout scénarisé. Pas moi. Il répétait en boucle que même si la vérité était terrible et cruelle, mieux valait la connaître, et que si je ne voulais pas savoir, il ne fallait pas lui demander. Et au fur et à mesure qu'il répétait ça, il s'approchait. Il a essuyé une larme sur le rebord de ma paupière. Il m'a dit qu'il avait beaucoup d'affection pour moi. Et d'une voix de plus en plus basse, en penchant sa tête jusqu'à mon oreille, qu'il pourrait m'aider, me donner des conseils. Jusqu'à mon cou, qu'il me trouvait jolie, que c'est pour ça qu'il m'avait choisi, qu'il avait feuilleté rapidement quelques centaines de fiches de candidature de lectrice pour le concours, en regardant à peine leurs lettres de motivation, que j'étais exactement son type de femme, passionnée et naturelle, jusqu'à mes lèvres. Le parfum de Marie-Ambre empestait la pièce. Je lui ai d'abord craché au visage. Il n'a pas reculé. Au contraire, il m'a collé en me répétant « Calme-toi, calme-toi ». Il m'a serré, il a écrasé mes seins, je sentais son sexe contre le mien. Il m'aurait violé, comprends-tu? Il m'aurait violé. Le fusil de chasse du maire était posé contre un mur de la cabane. Je l'ai attrapé par le canon et je l'ai frappé. Crosse contre crâne. Il est tombé mort sur le coup, je crois. J'ai crié. Et dans la nuit, un autre cri a jailli. En écho au mien. Dehors, sous la lumière de la lune et d'un réverbère lointain, j'ai reconnu Martine qui s'enfuyait. M'avait-elle vu, entendu, reconnu? C'est là, Yann. Crois-moi ou pas, c'est là que j'ai commencé à improviser. Parce que j'avais un mort qui baignait dans son sang à mes pieds, un type à qui j'avais défoncé la tempe, un type qui venait de déchirer ma vie autant que je venais de briser la sienne. On ne réfléchit plus alors. On agit, on survit. Puisque PYF avait foutu en l'air mon rêve, je m'accrochais à un cauchemar. J'ai réglé les choses les unes après les autres, comme une liste de corvées qu'on effectue dans l'ordre et qu'on raye une fois accomplie. Le Hilux de Tanae était, comme toujours, garé devant le portail du soleil redouté, les clés à leur place dans la salle Maeva qui n'est jamais fermée la nuit. Je n'ai eu qu'à me servir, retourner à la cabane du maire, charger le corps de PYF. J'avais mon idée pour le cacher. La cabane sous le banyan, près du vieux cimetière de TIVTT. Personne n'aurait l'idée de le chercher là-bas. Une idée stupide, tu peux me croire. Traîner le gros corps de PYF sur ce sentier en pente raide où même un 4x4 ne peut pas passer. Si ce n'est pas la preuve que j'ai tout improvisé. Je suis revenu épuisé. Tout le monde dormait au soleil redouté. Même Farain, que j'avais aperçu en train de lire sur la terrasse, était rentré dans le bungalow conjugal. Au moins, Martine n'avait pas donné l'alerte. Je devais en profiter. Je me suis invité chez elle. Pour discuter. Encore une mauvaise idée. Je crois qu'elle ne m'avait pas reconnu à la cabane du maire. Mais quand elle m'a vu me pointer en pleine nuit, elle a compris. Tout du moins que c'est moi qui avais frappé PYF, pas que j'étais obligé désormais de l'éliminer. Martine était ce genre de fille qui imagine que ces choses n'arrivent que dans les livres. Je n'avais pas le choix. C'était elle ou moi. Je l'ai étouffée avec un des coussins du lit. Le pire moment de ma vie. J'aimais beaucoup Titine, tu sais. Je lui ai chanté en sourdine des chansons de Brel. Jojo, Fernand, Jeff, pendant que je continuais d'essayer de m'en tirer comme je pouvais. Pour une fois, j'ai eu une idée plutôt maligne. Laisser dans le bungalow Ouapo de Martine le testament d'une autre fille. PYF les avait tous emportés avec lui dans la cabane du maire. Et un galet peint d'un tatouage marquisien. Le fameux Enata à l'envers. Exactement la même mise en scène que celle de PYF le matin. Ainsi, tout le monde ferait le rapprochement et penserait qu'il était encore vivant. Je brouillais les cartes. Je gagnais du temps. J'avais toute la nuit. Je suis descendu à la plage d'Atuona ramasser un galet. En passant devant Tattoo, j'ai eu l'idée d'aller voler des aiguilles de dermographe. Je savais que ta femme courait après ce fameux violeur en série, que PYF s'y intéressait également. J'ouvrais une fausse piste supplémentaire si je laissais croire que Martine avait été poignardée par un tatoueur. J'ai emporté une photo d'elle aussi, d'elle jeune, pour m'en servir plus tard en cas de besoin, en la glissant dans le livre ou dans la poche de quelqu'un, et éveiller les soupçons. N'en ai pas eu l'occasion. À vrai dire, pour une fois, même si je ressentais un sentiment étrange d'être devenu en quelques heures une double meurtrière, j'étais plutôt fier. Malgré l'urgence, j'avais pensé à tout. Quelle idiote. Tu vois bien, Yann, que je suis pas une de ces tueuses froides et machiavéliques qu'on rencontre dans les romans policiers. J'avais oublié un détail. Un détail de rien du tout. J'avais laissé mes empreintes digitales dans la chambre de Martine. Partout. Je m'en suis rendu compte que le lendemain soir, avant le repas, à notre retour de Pouamaou. Tout se passait bien pourtant. Personne ne me soupçonnait. Du moins, je croyais. Puis j'ai découvert qu'on était entré dans mon bungalow, qu'on avait emprunté un gobelet, mon dentifrice, une bouteille d'eau. Ok, pas besoin d'un dessin, j'avais compris. J'ai d'abord évidemment pensé à toi et ta petite adjointe. Mais juste après le repas, j'entends la commandante raconter à Tanae qu'elle a tout compris et sait où se cache le tueur, qu'il ne lui manque que l'ultime preuve. Parle-t-elle de moi ou de son fameux tatoueur? Et la voilà qui file toute seule à dos de cheval sous la pluie dans la nuit en direction du vieux cimetière de TIVTT. J'ai continué d'improviser. La nuit et la pluie m'aidaient. J'ai fait semblant de rentrer dans mon bungalow. Puis je suis ressorti aussitôt. J'ai attrapé le fusil du maire que j'avais caché sous le séchoir à copra. J'ai sauté sur le dos de Miri et j'ai filé derrière Farain. J'avais à peine un quart d'heure de retard sur elle. Là encore, j'ai dû improviser. Ta femme avait son téléphone portable à l'oreille. Elle se tenait à l'abri sous le banyan, à 2 mètres de la cabane où reposait le corps de PYF. Je n'entendais que des morceaux de conversation sous la pluie qui martelait les feuilles. J'ai mené mon enquête. J'ai tout compris hier soir. Je l'ai retrouvée, là, tout près d'ici. Elle te demandait de venir, vite. Je n'avais pas le choix, Yann. Je lui ai tiré une balle en plein cœur. Elle n'a pas souffert. Je devais faire vite ensuite. Tu allais arriver. De toute façon, sans véhicule, le corps de PYF était trop lourd à transporter. Tu allais forcément le trouver. Ce coup-ci, tu appellerais la police. Je devais gagner du temps. Comme les fois précédentes, j'ai laissé un nouveau testament, celui de Marie-Ambre. Je les avais tous récupérés dans les affaires de PYF. Et surtout, j'ai eu l'idée de t'envoyer un texto avec le téléphone de ta femme. La meilleure idée que j'ai eue, je crois. J'étais certaine que pour la protéger, tu n'avais pas appelé les flics. Ensuite, j'ai chargé le corps de Farain sur Miri. Tu vois, comme dans les westerns. quand les chasseurs de primes ramènent au shérif le corps d'un hors-la-loi. Sauf que là, c'était l'inverse. J'essayais d'échapper au shérif. Les guides des marquises disent vrai, Yann. La meilleure façon de découvrir l'île est le cheval. Les sentiers sont conçus pour eux, pas pour les 4x4. On peut la traverser 100 fois sans se faire repérer. Que faire du corps? Je devais décider vite. Dès que tu donnerais l'alerte, on viendrait frapper à tous les bungalows pour réveiller les pensionnaires. J'avais repéré au-dessus du soleil redouté un taé enfoui dans la forêt. Ça ferait l'affaire pour quelques heures. J'y ai caché le corps et le fusil, avant de rentrer, de ramener Miri dans le champ et de me précipiter dans mon bungalow. Tanae est venue tambouriner à ma porte moins de 5 minutes après. Tu dois m'en vouloir, Yann. Je le comprends. Vraiment. Mais j'essaie juste de t'expliquer que j'ai agi sans aucune haine. Que c'est un engrenage, un accident, une mécanique qui s'est emballée tellement rapidement. J'ai disposé d'à peine quelques heures de répit, le temps de discuter avec un peu tout le monde, de trouver un moyen de quitter cette île sans éveiller les soupçons. Et voilà que Marie-Ambre m'apprend que Poé et Moana étaient dehors la nuit d'avant sous la pluie et que, cachés derrière la grange, elles m'ont vu partir et revenir. Qu'elles en parleront directement à la police. Cette fois, je pensais que j'étais fichu, que le compte à rebours avait commencé. On était toutes les deux, Marie-Ambre et moi, dans la bananeraie, au-dessus du soleil redouté. Je réalisais que je ne devais laisser aucun témoin derrière moi. Quelque chose me poussait à aller au bout de cette logique tragique. Je vais tout avouer, capitaine. Je crois que pour la première fois de ma vie, je découvrais ce pour quoi j'étais doué. Tuer. Quelle ironie. J'aurais préféré posséder le mana du talent, crois-moi, ou de l'esprit, de la grâce. Mais non. PYF avait tout compris en faisant sculpter mon tiki. Mon mana était celui du bourreau, de la Taoua, la prêtresse désignant ceux qui seraient sacrifiés. Je le sentais m'irriguer de toute sa puissance. Peut-être est-il responsable de tout. Peut-être est-ce à cause de lui si je me suis aussi facilement métamorphosé en meurtrière. Une semaine auparavant, je n'avais jamais mis les pieds aux marquises. Pourtant, à cet instant, je ressentais au plus profond de moi tout ce que devaient ressentir depuis des siècles les chasseurs des vallées d'Ivaoa. Le goût de la traque, de la mise à mort. J'ai fait semblant d'avoir entendu un bruit. J'ai attendu que Marie-Ambre s'enfuit dans la forêt. Tout me semblait si simple. Courir au Mehae, saisir mon fusil, la rattraper. Ma pauvre proie ne cherchait même pas à s'échapper. Elle n'avait parcouru que quelques dizaines de mètres et s'était assise sur une pierre tout près du Mehae. Elle se croyait sauvée, si près du soleil redouté. Elle avait paniqué pour rien, pour un bruit que j'avais prétendu avoir perçu derrière le tiki et qu'elle n'avait pas entendu. Elle écrivait, exactement comme Farain la nuit d'avant au vieux cimetière. Elle notait toutes ses impressions, ses émotions, avant de retrouver les autres, comme Pierre-Yves leur avait demandé. « Quoi qu'il arrive, écrivez, écrivez, remplissez votre bouteille à l'océan. Et après, on prétendra que c'est moi qui suis cinglé ?» J'ai attendu qu'elle ait terminé, qu'elle range les feuilles dans son sac, comme l'avait fait Farine. Et j'ai tiré. J'ai allongé son corps sur le Mehae, à côté de celui de Farine, entre les deux tikis. J'ai posé le testament d'Héloïse, puis j'ai filé. Le coup de fusil avait forcément dû s'entendre jusqu'à la terrasse du soleil redouté. Il allait attirer. Il ne restait plus qu'Héloïse et moi. Peut-être qu'au fond, mon mana me poussait dès le début vers cette unique issue. Éliminer toutes les autres pour vivre cet instant. Héloïse, en face de moi, avalant son thon coco, le seul plat marquisien qu'elle apprécie, la petite chérie, s'étranglant, ne comprenant pas, perdant l'usage des doigts, de ses mains, de ses bras, respirant de plus en plus difficilement, roulant des yeux de poisson mort en me regardant. Héloïse, la si belle, Héloïse, la si douée. Héloïse, la si morte. Et moi, vivante, bien vivante. Clémence se tait enfin. Elle baisse les yeux vers le lit et la main de Yann sur le manuscrit. Yann sait qu'il a quasiment épuisé tout son crédit temps. Il aurait peut-être dû en gagner en interrompant le récit de Clem, en se révoltant. Ou au contraire, en jouant à l'admirateur fasciné.
mais il n'a pas voulu prendre le risque de briser l'élan de confidence. Une technique de psy ou de curé. Sauf que la séance est terminée. Il doit pourtant grappiller encore des minutes. Yann lance un nouvel appât.
Et tu comptes faire quoi? Ne laisser aucun témoin derrière toi?
C'est-à-dire liquider toute la population d'Ivaoa? 2000 habitants. C'est ça ton plan? Tout faire sauter, façon Mururoa?
Clémence recule d'un pas, fusil toujours pointé sur le cœur du gendarme.
Tu ne m'as pas bien écouté, capitaine. Cette fois, je n'improvise plus. Je n'ai pas un plan, mais plusieurs.
Yann retient un souffle de soulagement. Clem a mordu à l'hameçon. Sa main continue de se crisper sur les pages du manuscrit.
Plusieurs?
3, pour être précise. Le plan A, celui que j'ai ruminé depuis 2 jours, est le mode d'évasion le plus radical.
Elle change un instant la direction du canon de son fusil, le plante sous son menton, puis le dirige à nouveau vers Yann, avant qu'il ait pu réagir.
T'as compris, je crois, clarifie Clémence. Je me tire une balle en pleine tête. 5 lectrices, 5 cadavres, plus ceux du mari gendarme et de l'écrivain. C'est le constat que feront les flics en débarquant. Un mystérieux massacre et personne pour témoigner de quoi que ce soit. Ça aurait plutôt de la gueule, non?
Technique de psy. Yann tortille ses mains et hoche la tête, sans avis.
T'as pas l'air convaincu? T'as pourtant dû en voir, dans tes enquêtes de campagne, ce genre de boucherie. Alors, je passe au plan B. Je suis longtemps resté bloqué sur lui. Je me tire une balle, mais pas mortelle. Tu vois, dans l'épaule ou l'un des poumons. Quand les flics atterrissent, ils découvrent toute l'horreur et une seule survivante. Moi, la miraculée. Le vrai tueur s'est envolé. Au début, ça me semblait le meilleur scénario, mais plus j'y réfléchis, plus ça me semble gros. T'en penses quoi, capitaine? Tes collègues seraient capables d'avaler ça?
Technique de curé. Yann joint ses mains et dodeline de la tête, sans trancher.
Moi, je crois pas. Reste le plan C. Je viens de le trouver. Alors je te le livre un peu en désordre. La seule solution, c'est de me sauver de cette île. Donc il n'y a qu'une façon. L'avion. Sauf que même si je parviens à le prendre, je me ferai direct arrêter à Papété. À moins que... L'idée m'est venue en suivant l'agonie d'Héloïse sur le canapé de la Salma Eva. Son corps raidi et son visage caché sous ses cheveux étalés comme un balai serpillière. Et si je faisais passer son cadavre pour le mien? Réfléchis bien, capitaine. Ça ne me semble pas bien difficile. Une balle dans sa jolie petite tête d'Héloïse. Je lui prête mes vêtements. Je trouve une paire de ciseaux pour lui tailler une coupe de garçonne. Et le tour est joué. Les flics sont persuadés que Clémence Novelle, comme les autres, a été assassinée et donnent la consigne à tous les aéroports de bloquer Héloïse Longo et seulement elle. Ma petite mise en scène ne fonctionnera pas très longtemps, mais assez tout de même pour atterrir à Papété et prendre n'importe quel autre vol vers l'Australie, les États-Unis, les îles Fidji ou la Nouvelle-Guinée. Et cerise sur le gâteau, ou litchi sur le flan coco, si tu préfères. Je quitte l'île en emportant sous le bras le manuscrit d'Héloïse, celui que tu protèges si précieusement, capitaine. Ce fameux chef-d'œuvre qu'à part elle et Pierre-Yves François, personne n'a lu, pas même ses enfants.
Clémence se penche une seconde pour en lire le titre, baissant de quelques centimètres le canon du fusil, et pousse un long soupir.
Attiré par les étoiles. Tu trouves pas ça d'une affligeante banalité? Et je crains qu'il n'y ait pas que le titre à changer. Mais que veux-tu, capitaine? Il paraît que cette petite poupée avec ses foulards et ses robes à fleurs était une surdouée. Et moi, la cancre? J'aurai tout le temps de m'extasier sur son génie dans l'avion. Le prochain décolle dans à peine 1 heure. Juste assez pour jouer les relouqueuses.
Yann, pour la première fois, esquisse un geste. Clémence redresse aussitôt le canon du fusil.
T'as envie de bouger? Ok, capitaine, alors éloigne un peu les feuilles de papier sous ta main gauche.
Je voudrais pas que ton sang éclabousse le manuscrit original d'un futur roman culte. »
La main de Yann ne bouge pas. L'index de Clémence se crispe sur la détente.
« Comme tu veux. Si c'est ta façon de croire que tu rejoindras pour l'éternité ta belle. »
Le gendarme redresse cette fois la tête. Il fixe la meurtrière droit dans les yeux. Technique de flic. Il se contente de prononcer lentement quatre mots. « Jette ton arme, Clem. » L'ordre produit son effet. Clémence a relâché la pression de son doigt sur la détente.
« Quoi ?»«
Jette ton arme. » répète Yann plus calmement encore. Clem affiche un sourire méprisant. L'effet de surprise est passé.
« Tu plaisantes ou quoi ?»
Son doigt se replie, canon pointé sur le cœur du gendarme assis.
« Ne te plains pas, capitaine. Moi, j'irai en enfer. Et toi, tu meurs au paradis. »
À cet instant précis, comme si un dieu courroucé avait décidé d'intervenir, le ciel semble s'ouvrir. Une voix puissante déchire les nuages au-dessus de la baie des Traîtres, à en faire trembler chaque bungalow du soleil redouté. Elle répète avec autorité et gravité l'ordre de Yann.
« Jetez votre arme !»
L'injonction divine est suivie d'un piétinement d'éléphant, des dizaines de bottes qui se déplacent en courant sur la terrasse. Clémence n'a pas tiré. Elle hésite entre tenir Yann en joue et se retourner. Le gendarme sourit, sûr de lui.
T'as raison, Clem. Les flics mettent 4 heures à venir de Tahiti. Mais je leur ai pas téléphoné il y a 1 heure, comme je vous l'ai dit dans la salle Maeva. Je les ai prévenus 3 heures avant, juste après le témoignage de Poé et Moana, dès que j'ai eu la certitude que tu étais la tueuse.
Les pas d'éléphant se rapprochent.
« Jetez votre arme !»
ordonne à nouveau la voix amplifiée par un mégaphone.
Après la découverte des corps de Farain et Marie-Ambre, continue le gendarme. Moi aussi, j'ai improvisé. Je devais tenir une petite heure. 1 heure pour te forcer à lever le masque et enregistrer tes aveux, tout en évitant que tu ne tues à nouveau.
Raté, siffle Clémence. Tanaé m'a laissé seule avec Héloïse. Tu n'avais pas prévu ça?
Elle lève légèrement le canon du fusil de chasse en direction du gendarme. Pleine face, plein front. Yann ferme les yeux.
« Une dernière fois !»
hurle la voix d'outre-ciel.
« Je crois que le plan C est compromis », se contente de murmurer Clémence. « Le plan B aussi. »
Yann ouvre les yeux. Clem a continué de lever son fusil. Elle le tourne vers elle d'un geste rapide et précis et coince le canon sous son menton.
« Reste le plan A. »«
Non !»
La détonation couvre le cri de Yann, ainsi que les nouveaux ordres du commandant de la BRJ de Tahiti. Clémence, comme si elle avait parfaitement anticipé sa trajectoire post-mortem, s'effondre sur le lit, yeux grands ouverts, mâchoire déchiquetée coulant en fontaine de sang sur les pages noires et blanches du roman. 4 flics armés de fusils d'assaut et équipés de gilets pare-balles entrent dans le bungalow à tout tard.
« Elle est morte ?»
demande stupidement l'un des membres du commando.
« Non, elle est vivante !»
crie une voix dans leur dos. Une petite voix claire de rivière, suivie de pas de gazelle sur la terrasse des éléphants.
« Elle est vivante !»
assure à nouveau la voix torrentielle. Maïma surgit dans le bungalow, tire le flic le plus proche par la manche, telle une gamine excitée que les adultes refusent d'écouter.
« Héloïse est vivante ! Vous êtes bienvenue avec un médecin, avec des médicaments ? Elle respire encore ! On peut la sauver !» On peut la sauver !»